Alors, nous allons réfléchir aujourd'hui donc à la première partie de cette prière que nous appelons habituellement le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce texte est évidemment une construction à partir, vous l'avez entendu, à partir des deux textes que nous venons d'entendre. Ces deux textes qui se ressemblent, mais qui présentent de nombreuses différences aussi. Et puis, ce texte est surtout construit... Ça va le son ? Ce texte est surtout construit à partir de deux textes traduits du grec. Et ce qui complique encore un peu plus les choses, c'est que dans le cas de Matthieu, la première version qu'on a entendue, le texte grec a une forme qu'on appelle hébraïsante. C'est-à-dire que sa syntaxe, la forme des phrases en grec, ne correspond pas du tout à la syntaxe, à la forme habituelle des phrases en grec, mais à celle de l'hébreu ou de l'araméen. Et ce n'est pas tellement étonnant. Si le Notre Père a été vraiment dit par Jésus, sous une forme ou sous une autre, Jésus parlait en araméen. Et si la prière du Notre Père vient de lui, on peut même imaginer aussi qu'il l'a dite plusieurs fois, et pas forcément toujours exactement avec les mêmes mots et avec les mêmes phrases. Bien, autre question. Les biblistes ont remarqué, depuis longtemps à vrai dire, et surtout, bien sûr, depuis 70 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 70 ans ? Il y a 70 ans, on a découvert les fameux manuscrits de la Mer Morte à Qumran. Et justement, dans ces manuscrits, là, on a découvert des prières qui ressemblaient beaucoup, pas exactement, mais des fragments. De toute façon, c'était que des fragments, mais ils en ont quand même reconstitué un certain nombre. Et donc, on a découvert que cette prière ressemblait beaucoup à d'autres textes, des textes écrits justement en araméen. Et puis, pour terminer avec les informations, disons, un peu académiques, les textes, j'en profite pour le dire, je le ferai en général d'ailleurs, les textes que je vous propose sont toujours pris dans la traduction de la Nouvelle Bible Second d'étude, c'est-à-dire c'est une des dernières avec les dernières, les informations les plus récentes. Et justement, les traducteurs de donc, cette dernière édition de la Nouvelle Bible Second ont inséré dans le texte de l'évangile de Matthieu, à côté du texte qu'on vient d'entendre, un cadre dans lequel se trouve le texte de la prière juive qu'on appelle le Kaddish. C'est une prière juive un peu différente, assez différente, ancienne. Mais peut-être, soit elle a inspiré celle des premières communautés, soit peut-être le Kaddish ou le Notre Père ont une origine commune, une prière plus ancienne. En tout cas, le début est très significatif. Je vous lis juste la première phrase. Qu'il soit magnifié et sanctifié, son nom grand dans le monde, qu'il a créé selon son bon plaisir. Y a une grande différence quand même. C'est qu'on ne s'adresse pas à Dieu, on parle de lui. Bon, pour en finir avec les comparaisons, une seule chose me paraît à peu près certaine. Les rédacteurs des évangiles, les deux rédacteurs des évangiles, puisque c'est pas les autres, ça ne figure que chez Matthieu et Luc. Ces deux rédacteurs ont inséré dans le texte une prière qui était déjà utilisée par les croyants de leur propre communauté. Ils avaient leur communauté. Ils ont écrit les évangiles d'abord pour leur communauté, pour qu'ils aient des textes. Eh bien, probablement, cette prière était déjà dite. Et ça explique aussi les différences. Quand ces textes ont été écrits, alors pour Matthieu, peu après 70, et sans doute une petite dizaine d'années plus tard pour Luc, le Notre Père était déjà en usage dans les communautés. Les croyants le disaient déjà, peut-être individuellement, on n'en sait rien, mais certainement ensemble, au culte. Et donc, ça n'a rien d'étonnant qu'il l'ait dite et écrite dans des versions un peu différentes selon les communautés, justement. Alors maintenant, regardons la nôtre, celle que l'Église a rapidement adoptée et fixée dans sa traduction latine, puis dans la traduction, ou plutôt les traductions en français. Et pensons-y, les protestants ont été les premiers à traduire et à dire le texte en langue vernaculaire, en langue du pays dans lequel ils se trouvaient, dans leur propre langue. Et dès le début, et c'est très important, les protestants français ont respecté le tutoiement du texte grec. Et avant Vatican II, quand il y avait d'autres versions du Notre Père, les protestants étaient quelquefois appelés les tutoyeurs de Dieu, ou même, de manière plus péjorative, les tutoyeurs. Et je crois en effet que ce tutoiement, qui est tout à fait naturel en grec, comme dans les langues hébraïques, particulièrement, nous le savons bien, dans les psaumes, et d'ailleurs ce tutoiement était aussi en usage forcément dans la version latine, et qui a été adopté maintenant par toutes les confessions depuis Vatican II, ce tutoiement a favorisé la relation directe et intime de chaque croyant avec son Dieu. Tutoyer Dieu par le Notre Père est à la fois pour nous une évidence et une joie. Et puis surtout, la traduction française débute par l'adjectif possessif « notre », « notre Père ». En grec, c'est l'inverse, « pater hémon », « Père de nous ». Mais pour nous, je trouve que c'est une grande chance, parce que dès le premier mot, cette prière fait de nous, nous qui la disons, nous qui l'écoutons ou la pensons, sans vouloir ou sans vraiment la dire, c'est pas grave, cette prière fait de nous une famille, et peut-être même mieux qu'une famille, parce qu'on ne choisit pas sa famille, une communauté. En disant ces premiers mots, nous prenons conscience que nous nous présentons devant Dieu ensemble, dans une recherche qui nous unit, qui nous permet à la fois de respecter nos individualités et de les dépasser. Et je pense que cette prise de conscience est déjà un élément de paix et de libération. Voilà, je crois qu'on est entré dans le cœur du texte. Pour moi, le Notre Père est synonyme de paix et libération. Alors bien sûr, les problèmes aujourd'hui pour nous surgissent, il ne faut pas les gommer dès la première phrase. Pourquoi Notre Père ? Pourquoi Père ? Pourquoi dans les cieux ? Il faut savoir que le nom de Dieu et le nom de Père sont très très souvent associés dans l'Ancien Testament, et en particulier dans les noms des personnes. Si vous trouvez les sons Ab, Abba, hein, Ab, c'est Père, et les sons El, Ya ou Yo, c'est Yahvé ou Dieu, El, vous voyez que vous avez très souvent des noms qui comportent les deux. Par exemple, Abia signifie Dieu est mon Père, Eliab, mon Dieu est Père, Eli, mon Dieu est Père, Abiel, Dieu est mon Père, Joab, Yahvé est Père. J'arrête. Alors, donc, bien sûr que cette expression nous renvoie à l'image du vieux barbu dans une société patriarcale. Et nous avons raison, bien sûr, de remettre en question cette image. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dépasser ce rejet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais nous pouvons être attentifs à l'histoire que nous avons entendue dans les premières lectures, celles que nous a faites Elisabeth, les lectures de l'Ancien Testament. Comment la foi s'est déplacée du morceau de bois qu'on appelait Père, ce qui mettait Jérémie tellement en colère, au Dieu unique et rédempteur, dont Ésaïe recherche la compassion paternelle, ça change déjà, même si Ésaïe, en fait, enfin bon. Il recherche la compassion paternelle, c'est-à-dire tout simplement l'amour. Ce Dieu que l'humanité se représente au ciel, et il faut bien se le représenter quelque part. Mais je crois que l'humanité se représente Dieu au ciel depuis qu'elle se tient debout. Le sentiment de transcendance nous vient de la station debout. Je crois que notre Père, qui est aux cieux, est celui qui, d'une manière ou d'une autre, depuis 3 millions d'années, accompagne notre évolution, nous a mis debout et nous a donné et nous donne encore le désir de lever la tête et nous permet aujourd'hui de le chercher ailleurs que dans la pierre dressée ou le bois sculpté. Mais bien sûr, cette recherche, nous la vivons dans une relative frustration parce qu'on le cherche, on ne le trouve pas forcément. En tout cas, on cherche pas forcément, on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche, ou du moins comme une attente. Et cette attente, cette frustration, nous les entendons exprimer ici, justement, avec les mots de cette même prière juive qui a peut-être inspiré le Kaddish. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire aussi, moi j'en suis incapable. Nous prenons, en disant ces mots, nous prenons conscience qu'il s'agit d'un acte relationnel, mais un acte où Dieu a un rôle prépondérant, qui nécessite cependant une réponse de la part de l'humanité. Ces phrases ne sont pas des demandes d'intervention directe. Et par exemple, il me semble qu'il y a une traduction qui dit « Fais savoir qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté. » D'abord, elle ne correspond pas au texte grec. Et deuxièmement, elle me semble, c'est un contresens. Ce n'est pas une demande « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Tout simplement par ces mots et par cette forme verbale, subjonctif. Eh bien, nous reconnaissons, nous acceptons avec simplicité notre propre impuissance. Par ces mots et cette forme verbale, nous prenons conscience avec simplicité que Dieu représente bien nos aspirations les plus profondes, mais des aspirations auxquelles nous ne parvenons pas à répondre par nous-mêmes. Que lui seul peut répondre à notre désir, notre besoin fondamental d'unité intérieure et même sur la terre comme au ciel, d'unité cosmique. Et je crois, pour terminer, je crois vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sans nous permettre d'oublier nos obligations envers nos frères et sœurs humains, et ces obligations, nous y réfléchirons dimanche prochain avec la deuxième partie du Notre Père, je crois que cet état d'esprit qui nous réunit devant Dieu est porteur de libération et de paix. Amen.